Le dimanche matin, c'est Côté Jardin.
Le cœur qui bat, il en sera question tout au long de cette émission consacrée aux chiens de travail, parce que de l'amour, oh là là, il y en a dans les histoires des gens avec leurs animaux. Et je me demandais, Anne Parvis et Stéphanie Huguenot, que l'on accueille dans ce studio, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les chiens? Pourquoi le chien est, je veux dire, on dit souvent le meilleur ami de l'homme, évidemment, mais pourquoi il devient comme ça un assistant, un thérapeute, un soutien si privilégié depuis si longtemps avec nous, les êtres humains?
Bah déjà, il vit avec nous depuis très longtemps, il nous connaît par cœur, il nous connaît même peut-être parfois mieux que nous-mêmes on se connaît. Il a appris à reconnaître nos émotions, il a appris vraiment à communiquer juste avec nous.
Il y a la question du flair aussi, mm-hmm. Anne Parvis.
Oui, alors ça c'est clair que là, ils nous battent de loin. Donc c'est vrai que ça c'est un atout qu'ils ont. Et ce qui me frappe aussi chez les chiens âgés qu'on a au cabinet, qui perdent la vue, qui perdent l'odorat, le flair en principe, ça reste toujours. Hein. C'est vraiment ce qui demeure jusqu'au bout.
C'est évidemment aussi ce qui le rend intéressant dans la détection de certaines maladies. On parle de diabète, on parle de ces questions d'épilepsie. Stéphanie Huguenot, alors je ne vous ai pas bien présenté, donc je vais le faire un peu plus correctement, mais vous représentez l'association Medical Flair qui élève des chiens à la détection. Comment vous formuleriez les choses?
Alors, nous, on ne les élève pas. En fait, on travaille avec les chiens de famille, les gens qui ont déjà un chien ou qui désirent avoir un chien. C'est vraiment le truc de base, c'est vouloir avoir un chien. Parce que ça engage pour beaucoup d'années et un chien, malgré tout, c'est une grosse responsabilité. Et nous, on va travailler en fait avec les gens, on va les aider à former leur chien par rapport à leur pathologie, pour que le chien repère une crise hypoglycémie, l'arrivée d'une crise épilepsie ou d'une crise d'angoisse, par exemple, dans le cas du TSA.
Comment ça se passe? Quels sont les signes que le chien est censé détecter?
Alors, c'est beaucoup olfactif, notamment pour l'épilepsie et l'hypoglycémie, c'est-à-dire que le corps va émettre une odeur particulière. Nous, on va apprendre au chien à reconnaître cette odeur. Et une fois qu'il l'a senti sur le propriétaire, sachant que le chien n'a pas besoin de renifler le propriétaire tout le temps, chaque fois qu'il inhale de l'air, il sent, et en même temps, il y a une bonne partie de l'air qui part directement dans la zone d'olfaction. Il va dire à son propriétaire, en fonction de ce qu'on lui a appris, « Ok, là, il se passe quelque chose, cette odeur que j'ai appris à reconnaître, à aimer, parce qu'il faut savoir que chez nous, reconnaître une hypoglycémie, c'est directement un morceau de knacky qui tombe, donc c'est intéressant pour le chien aussi. » Il va aller prévenir son propriétaire qu'il a repéré cette odeur.
Donc vous dites, s'il repère, comme il a été dressé, hein, voilà, à reconnaître cette odeur avec une récompense, il va tout de suite vouloir absolument en informer son propriétaire.
Exactement, oui.
Alors vous dites, j'adore parce que vous dites, Stéphanie Huguenot, il va dire.
Et il va dire, oui.
Il dit comment?
Alors, on l'entraîne à poquer. Poquer, c'est-à-dire, ça va donner des coups de museau sur la jambe de la personne. On a choisi ce geste-là parce que c'est pas quelque chose de naturel pour le chien que d'aller donner des bons coups de museau sur quelqu'un. Donc, c'est pas quelque chose où la personne peut confondre avec autre chose. Pour certaines personnes, on va aussi apprendre ce qu'on appelle le nudge, c'est-à-dire, ça va venir soulever la main, mais de façon très, très insistante pour dire, OK, il se passe quelque chose. Mais généralement, c'est quand même plutôt le poke. Donc, c'est vraiment, il vient le dire, quoi.
Donc, ça veut dire qu'il va ressentir ses odeurs, prémisse à l'arrivée d'une crise d'épilepsie, prémisse à un problème de taux de glycémie.
Oui.
Et il va informer la personne concernée avant même qu'elle n'en ressente le moindre symptôme.
Alors ça, on a vraiment les personnes, notamment diabétiques, qui nous disent, le chien réagit, nous, on n'a pas encore senti les choses. Et la pompe, parce que de plus en plus de personnes sont équipées d'une pompe, n'a pas encore sonné. C'est parce qu'en fait, le chien, lui, sent la descente du taux de sucre. Mmh. Alors qu'une pompe va réagir à un certain niveau. Donc oui, il va vraiment informer avant que la personne ait senti les premiers prémices. Oui.
Donc ça permet à la personne de se préparer, d'anticiper.
Ça ne va pas empêcher une crise, sauf peut-être pour l'hypoglycémie où la personne peut sursucrer immédiatement. Par contre, pour l'épilepsie, ça permettra à la personne de s'asseoir, s'allonger et d'éviter une chute qui peut être potentiellement très dangereuse, quoi.
Anne Parvis, vous avez vu ?
Oui, je trouve fascinant de savoir comment ces chiens détectent ça. Ces odeurs, ça doit être tellement infime, quoi. C'est incroyable de voir comment ils réagissent. Mais on voit aussi qu'il y a des chiens qui arrivent à détecter dans l'urine, par exemple, des cancers de la vessie. Donc on leur met plusieurs échantillons et puis ils trouvent, et c'est pratique, c'est 100%, quoi. C'est incroyable.
Oui. On parlait du jardin tout à l'heure avec Sarah Germanier, on disait tiens, détecter la présence de certains ravageurs ou peut-être même les larves de ces ravageurs, et vous disiez mais il y a des chiens détecteurs de Bostrich.
Tout à fait, oui. Il y a une association, j'ai plus le nom en tête, en Suisse alémanique, qui forme des chiens pour détecter le Bostrich en forêt. Mmh. Ça, c'est super intéressant aussi.
Mais il faut aussi, du coup, beaucoup de propriétaires passionnés qui sont d'accord de participer à ça et puis de mettre leur chien à disposition. Alors vous, dans le cadre de votre association Medical Flair, ce sont donc les bénéficiaires qui vont élever leurs animaux et faire le dressage pour la détection de leur propre pathologie.
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait.
Alors, on a parlé du diabète, on a parlé des crises d'épilepsie un peu, mais il y a aussi cette question du trouble
du spectre autistique.
Voilà, tout à fait. Comment ça fonctionne ?
Alors là, c'est un petit peu différent. Alors, on va y avoir des odeurs qui vont être liées aux crises d'angoisse. Donc, on peut travailler dessus, mais il y a aussi également tout ce qui va être comportemental de la part de la personne. Donc là, le chien va plus être... repérer en fait les crises de ce qu'on appelle les surcharges émotionnelles liées notamment à des grosses lumières comme j'ai face à moi ou des bruits ou des choses comme ça, va indiquer à la personne que parfois ok là il est temps de sortir par exemple. Elle, ça va être également aussi un facilitateur social dans le sens pas le chien, quand on a un chien étonnamment on rencontre plein de gens. Donc ça peut aider, mais également dans les endroits où il y a trop de monde pour des personnes avec un TSA, le chien va aussi servir de tampon, par exemple. On va lui apprendre à se mettre devant la personne ou derrière la personne pour remettre une distance sociale entre les gens. Par exemple, typiquement à la caisse d'un magasin, les gens qui sont derrière, qui se mettent trop proches, on va demander au chien de se mettre derrière pour remettre la distance du chien entre la personne avec un trouble autistique et la personne derrière qui s'approcherait trop. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de choses. Et le chien aussi va apprendre à gérer les crises d'angoisse, notamment en faisant des points de pression pour aider un apaisement, enfin, toutes ces choses-là, quoi.
C'est énorme, je sens. Non, mais c'est fascinant parce qu'il y a énormément de domaines. C'est pas juste... Voilà, on n'est pas vraiment... Et puis c'est peut-être aussi pour ça qu'on utilise les chiens. Hein. C'est que c'est pas juste... un point précis, on n'a pas juste une molécule à déterminer, mais il y a tout un ensemble.
L'humain est un animal sociable, le chien est un animal sociable, les deux ont énormément d'émotions en commun et savent s'aider mutuellement en fait. Hein. Tout comme un humain va savoir quand son chien n'est pas bien, il va essayer de l'aider. L'inverse c'est vrai aussi et on travaille vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment multifactoriel. Ouais.
Le dimanche matin, c'est Côté Jardin.
Et il est 7h20 ce matin dans Côté Jardin où nous parlons des chiens de travail, des chiens d'assistance. On a effleuré le sujet depuis le début de ce matin tellement il est riche et passionnant. En gros, on parle des chiens qui sont formés pour assister les êtres humains et notamment dans la détection de certaines pathologies et puis aussi dans l'accompagnement. Et nous avons au bout du fil Laure. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, racontez-nous, vous nous avez appelé pour nous parler d'un chien qui accompagne votre fille. Racontez-nous un petit peu comment il est arrivé dans vos vies.
Alors, il est arrivé dans nos vies parce que ma fille a des troubles du spectre de l'autisme et qu'un de ses intérêts restreints, c'était les animaux. Mmh. Et on s'est posé la question comment on pouvait l'aider au quotidien. Et le chien d'assistance a vite été une évidence. Donc, on a cherché les associations qui les formaient. Et je suis tombée sur l'association Pharadox, en Valais, où j'ai envoyé un dossier de candidature qui a été accepté. Et c'est comme ça que Yalou est arrivé dans nos vies.
Donc c'est un chien qui a été formé par l'association qui vous a été ensuite remis.
Exactement. C'est un chien qui vit 12 à 18 mois en famille d'accueil, où il apprend toute la vie en société, à avoir peur de rien, à sortir, les assis, les coucher, etc. Et puis ensuite, il repart au centre de formation, où là, il est spécialement formé avec les odeurs de Clara, qu'on a dû envoyer. On a dû envoyer des vêtements quand elle faisait des crises, quand elle était stressée, etc. Et c'est avec ça qu'ils ont travaillé pendant 6 à 8 mois. Et puis voilà.
Alors racontez-nous comment ça se passe au quotidien, qu'est-ce que l'arrivée de Yalou a changé dans votre vie, dans celle de Clara ?
Yalou déjà rend le quotidien beaucoup moins, comment on pourrait dire ça ? Beaucoup plus supportable, beaucoup plus ludique, c'est-à-dire que quand on a du mal à se lever, c'est Yalou qui va faire une petite lèche-ouille, c'est Yalou qui va pousser Clara, allez viens, on y va, etc. Et il est aussi là pour gérer le stress. Il faut savoir que Clara est quelqu'un d'angoissé et de stressé, c'est-à-dire que quand elle sent le stress monter, elle s'asseye par terre, et Yalou vient instinctivement se lever entre ses jambes, il s'asseye ou il se couche, et puis elle peut caresser, elle peut faire des câlins, passer ses doigts dans ses poils. Et c'est ça en fait qui va faire baisser son stress.
Je me tourne vers Stéphanie Huguenot, votre travail c'est d'éduquer ou de dresser ses chiens à avoir cette attitude. Comment on apprend à un animal d'entrer, parce que ça semble être de l'empathie, il sent le stress et il va naturellement, mais c'est pas vraiment ça.
Ah bah il y a un petit peu les deux quand même.
D'accord.
Parce que assez naturellement, d'ailleurs, les gens, toute personne qui a un chien le sait, quand il est stressé, quand il n'est pas bien, le chien va venir vers nous. Donc nous, en fait, on va travailler aussi là-dessus,
renforcer
ça, en rajoutant en plus l'odeur pour dire, ok, là, t'as vu que j'étais pas bien, mais en plus, tu le sens, t'en es sûr. Donc quand tu sens ça, moi, je te demande de venir vers moi. Donc il y a vraiment les deux, en fait. On va vraiment renforcer ce côté, je mets des guillemets, empathique du chien, avec cette éducation-là.
Est-ce que Clara a changé aussi depuis l'arrivée de Yalou dans sa vie ?
Oui, Clara est devenue un peu plus sociable. Enfin, voilà, le chien facilite le contact. Quand on voit un chien, même s'il a sa chabra qui normalement on peut pas caresser, on doit les ignorer. Pour les gens, c'est difficile. C'est-à-dire qu'ils voient un beau petit chien, et voilà, c'est à double sens en fait. C'est des chiens qu'on ne doit pas déranger quand ils travaillent, mais c'est aussi des chiens qui facilitent le lien social, parce que les chiens attirent les enfants. Donc on explique que c'est un chien qui travaille et qu'on doit normalement pas l'embêter, qu'il doit être concentré sur sa tâche. Il y a beaucoup encore d'éducation qui doit être faite pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu en fait.
Le chien est bienvenu partout. Est-ce que Clara peut se promener partout avec Yalou ?
Alors, Yalou est bienvenue quasi partout. Mm-hmm. Là, elle a été hospitalisée au Kinderspital à Bâle. Donc, Yalou a fait plusieurs visites. On n'a pas eu de soucis. Mais malheureusement, le seul lieu où il n'est pas accepté, c'est à l'école. Parce que les chiens d'assistance, pour ces personnes-là, ne sont pas considérés comme moyens auxiliaires. Et donc, ils ne sont pas reconnus par l'assurance invalidité, et ce qui fait que c'est pas comme un chien guide d'aveugle ou un fauteuil roulant. Donc, ces chiens ne sont malheureusement pas admis encore à l'école. On y travaille.
Stéphanie Huguenot.
Alors, par rapport au TSA, la loi a un petit peu changé au 1er janvier 2024. Les chiens pour les enfants atteints de TSA sont reconnus comme moyens auxiliaires par l'AI jusqu'à 9 ans.
Ah.
À partir de 9 ans, le TSA a dû disparaître, je ne sais pas.
C'est un petit peu
magique.
Il n'existe plus.
C'est ça.
Mais Clara a 9 ans déjà ?
Non, Clara a 13 ans.
Ah oui, d'accord. Donc,
il faut savoir que le TSA ne disparaît pas. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental et que c'est là à vie. Et voilà, que quand ils sont adultes, je connais des gens TSA qui, sans leur chien d'assistance, ne peuvent juste pas sortir de chez eux, en fait. N'ont aucun lien social, ne peuvent pas sortir pour aller travailler. Et je trouve dommage parce que on loupe quand même l'intégration de personnes et des gens qui ont une rente AI qui pourraient peut-être s'en passer ou qui pourraient avoir une demi-rente.
Bah merci beaucoup pour votre témoignage, Laure.
Mais je vous en prie.
Et on vous souhaite une très belle journée avec Yalou, Clara et toute l'équipe.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Stéphanie Huguenot, on l'entend, c'est important hein, pour les familles qui sont au bénéfice d'un chien. Alors vous, votre association Medical Flair ne fonctionne pas tout à fait comme Faradog ou encore la Fondation Artanis dont on parlera en fin d'émission également, parce que vous ne formez pas de A à Z un chien, vous prenez en général les chiens des familles, donc c'est une famille qui adopte son propre chien et qui va avoir l'accompagnement de vos services pour la formation. Est-ce que n'importe quel type de chien est capable de devenir un chien d'assistance?
Alors j'ai envie de dire, tous les chiens peuvent faire le travail d'alerte, mais toutes les races peuvent le faire, mais pas tous les chiens. C'est-à-dire que nous, on va vraiment sélectionner sur le caractère du chien. On veut un chien qui aime travailler, on veut un chien qui soit proche de l'humain, on veut un chien qui soit sociable. Après, on sait qu'il y a certaines races, quand elles sont dehors, elles seront plus amenées à pister du gibier que s'occuper de l'hypoglycémie de leur propriétaire.
Donc, il y a des priorités.
Il y a des priorités qui peuvent être un petit peu autres. Donc, on essaye de voir un petit peu avec ça, mais surtout, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est un caractère de chien. Et après, j'ai envie de dire, on offre quelque chose de complémentaire par rapport à Artanis, par rapport à Faradog, par rapport à ces associations qui remettent des chiens déjà formés. Parce que tout le monde ne va pas être en mesure non plus de former son chien. C'est quelque chose qui est très prenant, qui demande beaucoup d'investissement en termes de temps. Donc c'est vrai qu'on regarde aussi par rapport à ça, mais il y avait de plus en plus de gens qui demandaient pour former leur chien, donc on s'est dit, ces gens-là, va les aider aussi. Quoi.
C'est sûr que si on a déjà un chien et qu'on doit en adopter un deuxième, c'est un peu compliqué.
Oui.
Effectivement.